on va démarrer cette journée ou ces trois jours, selon que vous faites uniquement le stage aujourd'hui, stage conférence, ou que vous participez aux trois jours, conférence aujourd'hui et puis atelier demain et après-demain. Donc je suis ravi de vous accueillir dans ces locaux, donc l'espace Mendès France, centre de culture scientifique, technique et industrielle en Poitou-Charentes. J'ai le plaisir et l'honneur de présider cette association. Alors vous êtes ici pour un stage de formation continue, inscrit au PAF. Et il est plus qu'évident que sans la participation et l'implication de cette maison, l'espace Mendès France, un tel stage ne pourrait pas être monté dans l'académie, puisque nous faisons partie des académies assez nombreuses où il n'y a pas, au niveau des universités, que ce soit à Poitiers ou La Rochelle, de laboratoires, d'activités bien labellisées, tournant autour de la thématique histoire des sciences ou histoire des techniques. Ce qui fait qu'il n'y a pas de réseau universitaire qui permettrait de solliciter tel ou tel collègue d'autres académies. Ces ressources, alors bon, c'est bien dommage au niveau universitaire, mais c'est compensé très largement par l'expertise de l'espace Mendès France, qui est sans aucun doute le seul centre de culture scientifique qui a en son sein une forte activité liée à l'histoire des sciences et des techniques. Vous avez la responsable de ce pôle au niveau de l'espace Mendès France, Anne Bonnefoy, à qui ces journées doivent beaucoup, puisque c'est en grande partie elle qui élabore le programme et sollicite les intervenants. Quelques mots sur cette maison, parce que donc c'est un stage, ça doit faire 8 ou 9 ans que ce stage est proposé. Alors attention, il est proposé, mais il n'est pas reconduit dans sa forme bêtement, comme un certain nombre de stages du PAF. Hein. C'est-à-dire que tous les ans, les thématiques et les intervenants sont des intervenants nouveaux. Ce qui permet à un certain nombre de têtes, que je revois régulièrement tous les ans, de venir ici, d'être des fidèles et de ne pas avoir les mêmes contenus chaque année. Mais cette année, j'ai l'impression que la promotion se renouvelle largement, puisqu'il y a peu de têtes qui nous reviennent en mémoire. Voilà. Donc, quelques mots sur l'espace Mendès France. Alors, c'est un centre de culture scientifique, mais culture au sens bien plus large que les sciences telles qu'on les entend. Hein. C'est-à-dire que toutes les sciences sont associées et participent dans cette maison, que ce soit évidemment les sciences dites dures, mais aussi les sciences humaines, le droit, sciences économiques, etc. On a une activité, une programmation classique pour un centre de culture scientifique, sous forme d'expositions, de conférences, mais aussi de journées d'études sur des interrogations actuelles ou qui posent question aux citoyens. Hein. Des soirées, voire des nuits, sur des thèmes bien précis, la laïcité, l'immigration, récemment au mois de novembre, le handicap. Et puis nous avons, alors ça c'est à Poitiers, mais nous avons aussi une diffusion, une action en région qui va se densifiant, hein, où nous participons à la vie dans les territoires, hein, en servant d'experts ou de ressources pour les élus ou le monde associatif. Cette maison, c'est un peu plus de 100 000 personnes par an. 60 000 dans ces lieux et puis 40 000 en région qui donc bénéficient de la programmation riche de Mendès France. Donc j'espère que vous allez profiter de votre séjour d'une journée ou trois jours ici pour, en plus de l'apport et du contenu de ces conférences, eh bien vous baladez un peu dans cette maison et puis regardez toutes les brochures qui vous montreront la richesse de notre programmation. Voilà, j'espère avoir le temps de suivre comme vous la plupart des choses qui vous sont proposées. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vais passer la parole à mon collègue Patrick Matagne qui donc ce stage est un des rares stages proposés par l'UFM dans le cadre du PAF, hein, parce qu'autrement ce sont des actions bien ciblées qui répondent à des soucis, et je les comprends aussi, des soucis immédiats des inspecteurs, des IPR hein, dans telle ou telle discipline par rapport à des pratiques professionnelles, etc. Là, c'est une autre démarche dans l'élaboration de ce programme lié à l'histoire des sciences et des techniques. Et donc, mon collègue maître de conférence à l'UFM, Patrick Matagne, est à l'origine, avec Anne, évidemment, du contenu de cette journée. Patrick.
Merci. Non, je voudrais, pour nuancer tes derniers propos, préciser que c'est effectivement Anne qui, grâce à son réseau très important de chercheurs, d'historiens des sciences, qui est largement responsable de l'organisation de ces journées. Pour ma part, donc, j'aurai le plaisir d'accueillir également demain matin ceux qui se sont inscrits sur les trois journées, et donc en particulier pour les ateliers qui commencent demain matin. Donc j'aurai le plaisir de vous accueillir au CDDP, où je vous parlerai plus en détail, au CRDP, pardon, où je parlerai un peu plus en détail de l'organisation des stages pour ceux qui seront concernés. Donc bonne journée ou bonne trois journées dans ce stage. Voilà, juste un petit problème administratif. Je ferai circuler une feuille dite démargement. Donc n'oubliez pas de griffer cette feuille pour attester de votre présence, pour les personnes en tout cas qui sont inscrites dans le cadre du stage PAF, puisqu'il peut y avoir également des personnes qui sont extérieures et qui sont accueillies dans le cadre de ces conférences aujourd'hui.
Oui, je voulais rajouter une chose qui n'a rien à voir avec cette journée, mais qui serait d'un grand intérêt pour vous. Il se trouve que, coïncidence, bon, je suis aussi enseignant-chercheur à l'UFM, hein, de Poitou-Charentes, et coïncidence, ce soir à 17h15, sur le site de formation de Poitiers, qui est situé sur le campus, à 17h15, vous avez une conférence donnée par Monsieur Orange, enseignant à l'UFM de Nantes, dont le thème est, au miracle, la didactique des sciences. Donc, pour les locaux, voire pour ceux plus éloignés de l'académie, mais qui pourraient se permettre de rester pendant jusqu'à 18h30 à peu près, je vous êtes cordialement invités à vous rendre sur le campus. Ceux qui sont intéressés, pendant les pauses, vous venez me voir, je vous indiquerai avec précision comment s'y rendre. C'est un des grands spécialistes, voire le spécialiste, de la didactique des sciences en France. Voilà.
Bon, merci à tous. Merci à mes amis Mario Cotron et Patrick Matagne. Et bien entendu que c'est un travail de triumvirat, vous l'aurez bien compris. Sans vous, ça ne peut pas se faire non plus. Donc, je vous invite à... Donc, je remercie infiniment l'UFM de son soutien. Et il est vrai que ce stage se met en place tranquillement, avec le succès qu'il connaît, grâce aussi à la souplesse du travail que fait Mario pour que son stage ait lieu. J'entendais Valérie Pécresse à France Culture ce matin qui parlait de l'enseignement. On apprend beaucoup de choses. Donc je voulais simplement vous, justement, et je me disais aussi que ça serait bien que l'histoire des sciences soit inscrite dans l'enseignement, bien entendu dans les UFM, et qu'elle porte ce nom-là, Histoire des sciences et des techniques. Et moi, je suis contente que vous soyez là, parce que vous allez être des médiateurs de cette discipline, sachant que l'histoire des sciences, en effet, est une discipline à part entière, l'histoire des sciences et des techniques, mais que vous soyez là, que vous veniez tous les ans comme vous le faites, je pense que le travail de médiation est fait, et puis nous vous en remercions infiniment. Donc le programme est au fond de la salle, donc je vais vous le distribuer, parce que je pense que vous n'êtes pas encore allé au fond de la salle, où il y a aussi les ouvrages et les bibliographies. Voilà, donc on va commencer la journée avec un peu de retard, mais on sera à l'heure pour ce soir, Mario, je te promets, pour que les personnes puissent aller écouter Monsieur Orange. Je voulais aussi remercier Patrick, bien entendu, avec lequel on a très bien travaillé et qui est toujours présent à l'Espace Mendès France, un ami de longue année. Donc, le stage commence par une intervention de Jérôme Lamy, qui va nous parler de Galilée, la lunette et le procès. Donc Jérôme Lamy est postdoctorant à l'IRIST, nous expliquerons ce que c'est à l'Université de Strasbourg. Jérôme, donc, tu es déjà venu chez nous donc donner des conférences dans le cadre de, de nos conférences astronomie au Planétarium, et tu es venu aussi l'année dernière donner une conférence dans le cadre, Mario ne l'a pas dit, mais des stages qu'on organise aussi avec l'UFM et le rectorat à Niort, et on a donné à La Rochelle, c'est il n'y a pas longtemps, qui a connu un grand succès. Donc, tu as fait ta thèse à l'École des hautes études en sciences sociales sur l'histoire de l'Observatoire de Toulouse au XVIIIe et XIXe siècle. Ton travail porte actuellement sur l'histoire de la sismologie comme savoir mondialisé et la distribution géographique d'une compétence spatiale en France. Et tu travailles également dans une perspective plus théorique, à savoir une sociologie transversale des sciences, transversaliste des sciences. Donc, j'aime bien ton approche. Je dis tout de suite, c'est toujours un plaisir de t'écouter, Jérôme, et je trouve que ton approche est fort intéressante. Et je te remercie beaucoup d'être venu chez nous au pied levé, par amitié aussi, hein, parce que Guillaume Lecointre n'a pas pu venir. Il viendra l'année prochaine pour la conférence de clôture. Il s'excuse. Et donc, j'ai demandé à Jérôme de venir et il a accepté tout de suite. Et c'est un grand plaisir. De toute façon, je l'aurai invité l'année prochaine. Alors, écoutez-le aujourd'hui et merci à tous.
Merci beaucoup, Anne. Je remercie les personnes qui m'ont invité à faire ce stage. C'est toujours un plaisir de les faire. Alors, je vais vous parler de Galilée, de la lunette et du procès. La trame globale de cette conférence, c'est saisir quelque chose qui est le procès de Galilée, qui est connu quasiment plus par des vecteurs médiatiques assez valorisés, type téléfilm, etc., ou livre, etc., et sur lequel il y a un discours qui est tenu et qui est parfois très en décalage avec les recherches historiques sur la question. Donc mon objectif, ce n'est pas de présenter quelque chose de totalement inédit, mais davantage de faire un point sur ce que signifie, du point de vue du travail des historiens, l'articulation entre le parcours de Galilée comme étant un savant du début de l'époque moderne et ce qui a constitué l'acmé, de sa carrière, c'est le procès à propos du dialogue sur les deux grands systèmes du monde. Alors, pour commencer d'abord, portrait du prévenu, en quelque sorte. Qui est Galilée ? Alors Galilée, il est né à Pise, le 15 février 1564. On sait que son père était musicien, Vincenzo Galilei. On sait que Galilée a été étudiant à Pise. Et étonnamment, on sait qu'il était étudiant dans la section qu'on appelle les arts libéraux, ce qui signifie en fait qu'il étudiait la médecine, tout simplement. Mais on sait aussi qu'il va quitter l'université de Pise sans avoir terminé ses études de médecine et qu'il s'intéresse à cette époque-là aux mathématiques. Et c'est à Florence, qui est à ce moment-là peut-être le centre le plus important pour l'apprentissage des mathématiques à la fin du XVIe siècle, qu'il va faire ses études et il va obtenir un poste assez rapidement, à 26 ans, 1589, de professeur de mathématiques à l'université de Pise. Il ne va y rester que 3 ans. Il aura eu le temps de se faire un certain nombre d'ennemis quand même, en contestant beaucoup l'opinion de ses collègues et en critiquant beaucoup l'opinion de ses collègues. Donc il est à l'université de Pise, 1589, il y reste 3 ans. 1592, il va à l'université de Padoue. Alors Padoue dépend de la République de Venise. Et il va y rester jusqu'en 1610. Et en 1610, il va quitter Padoue pour revenir à Florence, mais cette fois non plus comme élève, mais comme professeur, avec le titre de mathématicien et de philosophe, qui est un titre accordé par le duc de Médicis, Cosme II de Médicis. Alors ça, c'est un point extrêmement important. Ce n'est pas l'objectif du cours, mais nous sommes dans un système, fin du XVIe, début du XVIIe, où c'est la curialité, le fait d'être un savant de la cour qui a son importance. Et en ce qui concerne Galilée, ça a une très grande importance. C'est-à-dire que le système curial est un système de relations fondé sur le patronage et le client et le fait d'être un client, formellement, qui noue des relations de type hiérarchique, de type, de dépendance, qui sont extrêmement importantes et qui vont, dans le cas de Galilée en particulier, nourrir et avoir des conséquences extrêmement importantes sur son travail scientifique. C'est quelque chose sur lequel je ne vais pas forcément revenir tout au long de la... Parce qu'une heure, c'est court, donc je ne vais pas forcément revenir sur cette question-là, mais il faut toujours l'avoir en tête et toujours avoir à l'esprit. Je vous citerai dans la bibliographie, à la fin, un ouvrage important, mais je peux déjà en dire un mot, c'est celui de Mario Biagioli, qui s'appelle Galileo Courtier. Donc Galileo Courtisan. Oui. C'est un ouvrage en anglais qui est paru Chicago University Press et qui décrit parfaitement, précisément, le travail, parce que c'est un véritable travail, de courtisan que Galilée opère au sein de la cour des Médicis et pas seulement, on le verra, avec le pape. Donc ça, c'est un point qu'on doit garder en tête tout au long du déroulement de ce travail de Galilée. Alors, ça, c'est le premier élément. Là, on a des éléments... biographique un petit peu formel, voilà, Galilée enseignant. Alors j'ai dit, ça aura son importance qu'il est mathématicien et philosophe. On verra tout à l'heure pourquoi, quand il arrive à Florence en 1610, ce titre-là est important, on en reparlera. Deuxième point qu'on va aborder, c'est la lunette. Deuxième élément du titre, la lunette. Alors, en fait, la lunette astronomique, ça fait partie de ces inventions dont on ne sait pas par qui elle a été inventée. Il y a un processus sociotechnique, on pourrait dire, qui fait qu'elle émerge à un moment donné. On a un texte qui est important qui s'appelle la Magia Naturalis. D'un savant italien qui s'appelait Giambattista della Porta. Cet ouvrage est paru à la fin du XVIe siècle. Alors c'est typique des ouvrages de la fin de la Renaissance et de début de l'époque moderne où vous avez en quelque sorte une thématique sur les choses obscures, les choses cachées dans la nature, dans les techniques, etc., qui sont dévoilées, mais elles-mêmes parfois dans un langage très abscon, très obscur, extrêmement compliqué, amphigourique, tourmenté, etc. Et ça fait partie de ces ouvrages-là, de cette période-là, typique de cette période-là, mais dans lequel on va trouver quelque chose qui ressemble à une description de la lunette, c'est-à-dire en gros mettre deux lentilles l'une derrière l'autre. On a cette présentation-là, mais elle n'est que purement théorique. On sait qu'il a probablement existé un exemplaire d'une lunette vers 1590, probablement fabriqué en Italie, mais exemplaire qui circulait en Hollande, puisqu'il y avait des liens entre les maîtres verriers de Murano en Italie et les maîtres verriers de Hollande. Des liens d'échange technique et de circulation. L'Europe savante et technique connaît une grande circulation des savoirs, et c'est probablement le probablement là est important et pas simplement un effet de style, c'est probablement par ce biais-là qu'on connaît, qu'on a pu avoir l'émergence de la lunette. Alors, et on verra d'ailleurs que c'est important parce que Galilée s'est lui-même parfois autoproclamé inventeur de la lunette, il a même essayé d'en tirer un profit en le présentant à Venise, au doge de Venise, comme étant son invention propre pour en obtenir le brevet. Ce qui est faux, c'est qu'il n'était pas l'inventeur, mais il n'a pas obtenu le brevet, ce qui prouve qu'on ne l'a pas cru non plus. Une chose est sûre, c'est que Galilée a en main une lunette, un exemplaire de la lunette, vers 1609. Il le dit dans un certain nombre de correspondances, probablement vers le printemps 1609. Il s'intéresse à la lunette et surtout, il le cherche au mois d'août, il le dit aussi dans un certain nombre de lettres, à en reproduire une, non pas simplement à utiliser celle qu'il a à sa disposition, on ne sait pas de qui il la tient, mais à partir d'août 1609, à en reproduire une. Et là, il va la présenter à partir de ce moment-là comme son instrument et les expériences, enfin les observations qu'il va faire avec commencent à partir de ce moment-là. Alors j'ai dit Galilée, la lunette. Le troisième point, ça va être le procès. Je présente tous les éléments du procès. Pourquoi il va y avoir procès ? Il va y avoir procès avec l'Église parce que Galilée va défendre la théorie de Copernic, l'héliocentrisme, c'est-à-dire le système du monde avec le soleil au centre. Et pourquoi est-ce à ce point problématique ? C'est que domine depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ et donc depuis Aristote un système du monde qui est fondé sur le géocentrisme avec la Terre au centre, puis venant ensuite la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne et la sphère des étoiles fixes. On a ce système-là, avec cette précision extrêmement importante chez Aristote, que le monde qui est situé sous la Lune, donc le monde sublunaire, est un monde imparfait, corruptible, au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il peut être corrompu, transformé, altéré, où tout change, où tout est en permanence en mouvement, où rien n'est stable, et un monde supralunaire, au-delà de la Lune y compris, pour lequel, au contraire, tout est parfait, rien ne change jamais, c'est un monde incorruptible, qui est fait d'éternité et qui ne peut pas, qui à aucun moment ne peut être corrompu, modifié, altéré, changé. Alors, cette conception-là, évidemment, n'a pas traversé les temps sans être altérée. Je pense ici au système de Tycho Brahe sur lequel je ne m'étends pas, mais qui va, tout en essayant de respecter un certain nombre de points de cette cosmologie, va le transformer en laissant la Terre au centre, mais en faisant tourner toutes les autres planètes autour du Soleil, le Soleil tournant lui-même autour de la Terre. Ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais il faut voir que ce système-là n'est pas le seul. Simplement, il est archi-dominant parce qu'il correspond explicitement, avec la Terre au centre, au modèle théologique. C'est sa grande force, c'est qu'il est compatible avec le modèle théologique, c'est-à-dire avec l'homme, créature divine, au centre de l'univers, la Terre sur laquelle il est, au centre de l'univers. Il y a une sorte de logique qui fait que ce modèle cosmologique-là est dominant. Non seulement il est dominant, mais il est défendu par l'Église. Alors effectivement, quand Nicolas Copernic arrive en publiant son ouvrage « Des révolutions des orbes célestes »,« Des révolutionibus », milieu du XVe siècle, il arrive avec un système géocentrique. Le Soleil au centre, puis Mercure, Vénus, la Terre, la Lune tournant autour de la Terre. Alors, ce n'est pas la moindre des innovations, hein. Bien sûr, le Soleil au centre, c'est une grande innovation, mais on va voir que pour Galilée et les attaques qu'il aura à contrer, la Lune autour de la Terre, c'est aussi quelque chose d'important. Mars, Jupiter, Saturne et la sphère des étoiles fixes. Donc, on n'est pas dans un système elliptique. Kepler n'est pas encore passé par là, mais on a un renversement. Alors, il faut évidemment, on sait, le modèle révolutionnaire tel qu'il est présenté là n'a pas été perçu comme ça immédiatement. On a longtemps cru que l'Église catholique n'avait pas réagi. On sait aujourd'hui, en particulier grâce aux travaux de Michel Lerner, qu'il y avait deux prélats ont été mandatés pour expertiser l'ouvrage et ils ont rédigé deux lettres au pape indiquant qu'il était potentiellement subversif. Potentiellement, pourquoi ? Pourquoi seulement potentiellement ? Parce que l'éditeur de Copernic, qui s'appelait Osiander, avait décidé de se prémunir contre d'éventuels problèmes vis-à-vis de l'Inquisition. Évidemment, hein, un texte qui prétendrait que, on va voir tout à l'heure pourquoi ça a une importance pour l'Église, un texte qui prétendrait que l'homme, créature divine, n'est pas au centre de l'univers, puisque là, la Terre n'est pas au centre de cet univers-là, ça pose effectivement un certain nombre de problèmes vis-à-vis de la théologie. Donc, Osiander avait dit, le modèle de Copernic est un modèle purement mathématique. Et c'est là où la distinction est importante, j'y reviendrai tout à l'heure, mais l'Église fait une distinction entre ce qui relève du modèle mathématique et qui donc peut rendre compte des apparences de la réalité, et la philosophie naturelle qui, elle, rend compte de la réalité, non pas des apparences, mais de la réalité elle-même. À partir du moment où, dans la préface de Copernic, il y avait écrit qu'il s'agissait d'un modèle mathématique, il était donc censé décrire une représentation de la réalité, mais non pas la réalité elle-même. Cette distinction-là, qui est subtile, a prémuni, au moins en partie, le système de Copernic pendant un bon siècle des attaques de l'Inquisition. Alors cela dit, il faut se souvenir aussi qu'il n'y a pas simplement que l'Église catholique qui a attaqué le De Revolutionibus de Copernic. Il faut se rappeler que dans ses propos de table, Luther soutient que Copernic est fou de prétendre que la Terre n'est pas au centre de l'univers. Donc vous voyez, que ce soit du côté des protestants ou du côté des catholiques, on a, sinon du point de vue au moins des catholiques, une certaine méfiance et on va dire une veille, une sorte de veille intellectuelle sur ce texte-là dont il est écrit qu'il est potentiellement subversif, et d'autre part du côté des protestants, on va dire un rejet assez net de la part de Luther. Donc voilà, on a les trois termes, on a Galilée, on a la lunette et on a les conditions qui vont émerger pour le procès. Alors, que fait Galilée avec sa lunette ? Aussi étonnant que ça puisse paraître, la lunette avait commencé à être diffusée, en particulier auprès des princes hollandais, parce qu'elle pouvait servir de lunette d'approche dans les batailles. Et c'était tout à fait intéressant, du point de vue de l'armée, de voir les troupes ennemies avancer à quelques kilomètres d'où on était, donc du coup de pouvoir anticiper leurs attaques. C'était un de ce point de vue-là, elle apparaissait comme un instrument légitime et utile. Simplement, Galilée, s'il n'est pas été l'inventeur de la lunette, il a été au moins celui qui a permis de, en quelque sorte, de systématiser l'usage de la lunette dans l'observation scientifique. C'est-à-dire qu'il va en faire un instrument systématique d'observation. Et il se lance dans une série d'observations qui sont très importantes. Alors, les premières concernent la Lune. Alors, j'ai des... Voilà, ce sont ces croquis, les croquis qu'il a réalisés. Je crois que là, est à l'envers. Les croquis qu'il a réalisés de la Lune. Et voici ce qu'il va en noter. Je veux noter ici un fait que j'ai observé non sans un certain émerveillement. Presque au centre de la Lune se trouve une cavité plus grande que toute autre et parfaitement circulaire. Dans son obscurcissement et dans son illumination, elle présenterait le même aspect que celui de la Terre dans une région comparable à la Bohême, si cette région était de tous côtés entourée de hautes montagnes et disposée en cercle parfait. Dans la Lune, en effet, la cavité est entourée de cimes si élevées que la région extrême attenante à la partie ténébreuse se voit illuminée par les rayons solaires avant que la ligne de partage entre la lumière et l'ombre atteigne le diamètre de la figure elle-même. Ce texte-là décrit donc une observation de la Lune et surtout une analogie. Galilée prend une région de la Lune qu'il compare à la Bohême. Effectivement, ce propos-là peut paraître anodin. En réalité, il est extrêmement subversif. Pourquoi ? Parce que la Lune appartient au monde supralunaire. Elle est donc parfaite. Comme elle est parfaite, elle est censée être une sphère parfaite. Elle ne peut donc pas être assimilable à la Terre, qui, elle, appartient au monde sublunaire, et donc au monde imparfait, corruptible. S'il y a donc analogie entre l'une et l'autre, ça signifie donc que la distinction entre supra et sublunaire est controuvée, à tout le moins, qu'elle est inutile. Donc, Galilée, qui va défendre le copernicianisme grâce à ses premières observations, tente ici de planter un coin dans le dogme aristotélicien en montrant que la Lune, par ses observations, la Lune ne lui apparaît pas différente de la Terre et il peut dresser une analogie entre les deux. Ça, c'est le premier point. C'est sa première observation, les observations de la Lune. Alors, autre observation qu'il fait, oui, j'ai pas eu le temps de vous la montrer. Ça, c'est sa lunette, qui est aujourd'hui au Musée d'Histoire des Sciences de Florence. Voilà. Autre observation. Galilée va observer des satellites autour de Jupiter. En fait, sa première découverte a lieu le 7 janvier 1610. Il voit trois astres qui voisinent autour de Jupiter. Ensuite, le 11 janvier, il n'en voit plus que deux. Et le 14 janvier, il en voit quatre. Donc là, sa conviction est faite. Ce sont des astres errants qui sont en révolution autour de Jupiter. Ce sont donc des satellites de Jupiter. Nous, dans notre langage contemporain, nous disons que ce sont des satellites de Jupiter. Vous allez voir que Galilée, lui, emploie indifféremment le mot étoile pour désigner des planètes. Alors, pourquoi Galilée peut-il s'en servir comme d'un argument anti-aristotélicien et pro-copernicien? Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai montré le... Vous voyez le modèle de Copernic qui présente un énorme désavantage. c'est que Copernic, en replaçant la Terre comme une planète comme les autres, qui ne serait pas au centre, il lui donne quand même une exception. C'est la seule à porter un satellite, à avoir un satellite naturel qui fait sa révolution autour d'elle. Ce qui constitue effectivement, si on retire à la Terre son statut d'exceptionnalité en disant « elle n'est pas au centre de l'univers », alors pour quelle raison serait-elle la seule à avoir un satellite ? Qu'est-ce qui justifie que parmi toutes les planètes, si elle est une planète commune, pourquoi elle a un satellite ? Et donc on voit là que la découverte de satellites autour de Jupiter donne un sérieux argument aux partisans de Copernic. Et voici ce qu'en dit Galilée. En outre, nous tenons un argument excellent et lumineux pour ôter tout scrupule à ceux qui, tout en acceptant tranquillement la révolution des planètes autour du Soleil dans le système copernicien, sont tellement perturbés par le tour que fait la seule Lune autour de la Terre, tandis que ces planètes accomplissent toutes deux une révolution annuelle autour du Soleil, qu'ils jugent que cette organisation du monde doit être rejetée comme une impossibilité. Maintenant, en effet, nous n'avons plus une seule planète tournant autour d'une autre pendant que deux parcourent un grand orbe autour du Soleil, mais notre perception nous offre quatre étoiles errantes, donc quatre satellites, hein, tandis que toutes poursuivent ensemble avec Jupiter en l'espace de 12 ans un grand orbe autour du Soleil. Donc là, effectivement, alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'en reparlerai presque pas, mais voilà le lien de dépendance qui unit Galilée à son patron, en l'occurrence Cosme II de Médicis, fait qu'il a appelé ses satellites les planètes médicéennes, les planètes de Médicis. Autre découverte de Galilée. Alors, ça n'est pas une découverte de Galilée, mais disons qu'il en a fourni l'explication la plus probante. Ce sont les taches autour du Soleil. Galilée va découvrir que des taches se forment sur le Soleil et il va observer leur changement, leur évolution sur le Soleil. Il n'a pas été le premier, il y a eu au moins trois astronomes qui l'ont précédé, et le premier à l'avoir fait, c'est Thomas Harriot. Qui est un astronome anglais. Mais Galilée va en fournir une explication peut-être la plus précise aussi. Et la voici. Voici l'autre observation. Quand on n'ignore pas totalement la perspective du changement apparent des figures et des vitesses du mouvement, il faut conclure que les taches du Soleil sont contiguës au corps solaire et que, touchant sa surface, elles se meuvent avec lui ou sur lui. Vous voyez donc qu'il est d'une extrême prudence. Il ne dit pas formellement qu'elles sont sur le Soleil. Elles peuvent être sur lui ou du moins très proches. Parce qu'évidemment... Mais il a un argument de poids qui arrive à preuve leur mouvement. Il paraît très lent au bord du disque solaire et plus rapide vers le centre. Autre preuve encore, la forme des taches. Au bord de la circonférence, elles paraissent beaucoup plus étroites qu'au centre. C'est qu'au centre, on les voit en majesté telles qu'elles sont vraiment, alors que près de la circonférence, quand se dérobe la surface du globe, on les voit en raccourci. En gros, il est en train de nous décrire un effet de perspective. Et donc, si les taches du Soleil ne sont pas sur le Soleil, du moins en sont-elles extrêmement proches. Elles sont très très proches du Soleil. C'est la description, parmi tous ceux qui ont fait une description, et notamment Harriot, des taches du Soleil, probablement la description celle qui recherche l'explication la plus fine, la plus détaillée. Harriot, par exemple, se contente de repérer les positions. Mais il ne donne rien, aucune indication, ni sur la nature des taches, ni sur leur caractère d'appartenance au Soleil ou pas. Donc on a là un point extrêmement important. Alors, qu'est-ce que nous apporte comme indication ces taches solaires pour Galilée ? Toujours dans cette perspective de défense du système copernicien et donc d'attaque du système aristotélicien. Eh bien, le Soleil est censé faire partie du monde supralunaire. Le monde supralunaire est incorruptible, ne change jamais. Comment un monde supralunaire qui ne change jamais et dont le Soleil fait partie, peut-il admettre que des taches se promènent sur le Soleil ? Des taches dont on suit l'évolution, qui changent au jour le jour, etc. Par conséquent, c'est à nouveau un argument qui est présenté contre l'idée qu'il existe cette division entre un monde supralunaire et un monde sublunaire. Entre un monde parfait qui est celui au-delà de la Lune, et un monde corruptible, imparfait, changeant, qui est celui en dessous, en deçà de la Lune. Alors, Galilée se rend compte de la portée révolutionnaire de ses travaux, et il se rend à Venise en 1610, janvier 1610. Donc, vous voyez, juste après avoir fait ses observations, après avoir fait les observations des satellites de Jupiter, et il va publier, faire imprimer un petit ouvrage qui s'appelle Sidereus Nuncius, le messager céleste, en français, le messager des étoiles, qui paraît le 12 mars 1610. Il est rédigé en latin. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'important parce que la langue de la communication, on va dire, dans la circulation des savoirs, c'est le latin à ce moment-là. Et donc, qu'il soit destiné, on va dire, à ce qui est une proto-communauté scientifique, à une proto-communauté savante, doit être rédigé en latin. C'est le cas pour Sidereus Nuncius. Son objectif, c'est effectivement de faire connaître à cette communauté savante un texte fondamental avec des observations fondamentales qui ont des conséquences fondamentales. Parallèlement à ce travail d'édition et de publication sur lequel je vais revenir, en particulier sur les réactions qu'il a suscitées, Galilée ne s'arrête pas en si bon chemin. Il va poursuivre son travail d'observation à un rythme assez accéléré et il va observer l'étrange aspect de Saturne. Alors pourquoi je dis étrange ? Parce que la résolution de sa lunette ne lui permet pas de voir les anneaux de Saturne. Et donc il voit une planète avec deux petites planètes autour, qui sont en fait la vision des anneaux de Saturne tels qu'il les voit dans sa lunette. Autre observation, il découvre que Vénus, tout comme la Lune, a des phases. Alors, ce sont des observations qui sont importantes, mais il n'a pas le temps de les vérifier, il n'a pas le temps de les refaire, et il est engagé dans une course contre la montre pour être le premier, celui qui va... c'est relativement important à partir de là, ce qui va être le premier à montrer certains phénomènes grâce à sa lunette. Et donc, il va utiliser une forme d'écrit scientifique qui n'a pas la rigueur du Sidereus Nuncius, mais qui lui permet de s'assurer, a priori, d'être celui qui aura été le premier à les découvrir. Et donc, il va employer l'anagramme. Un anagramme qu'il va envoyer notamment à Kepler. Et là, je reprends, alors c'est pareil, je vous en dirai deux mots tout à l'heure sur la bibliographie, mais les travaux de Fernand Alline, qui a travaillé sur les structures rhétoriques des textes scientifiques et qui montre, par exemple, précisément que l'anagramme avait cette importance-là au début du XVIIe siècle, de pouvoir à la fois augmenter l'impact d'une découverte en l'entourant, sinon de mystère, au moins d'un aura assez piquant. Et il y avait un mélange de curiosité et de désir de voir dévoiler à la fois une partie inconnue du monde et le message lui-même. Donc Galilée va envoyer ces deux anagrammes. Le premier, salut descendance de Mars au double nombril, qui se transforme en j'ai observé une planète très lointaine et composée de trois parties. Alors, précision quand même, s'ils ont été envoyés à Kepler, mais on sait par les brouillons de Kepler et par les lettres de Kepler que Kepler n'a pas réussi à les trouver, ces anagrammes. En revanche, et c'est là où l'idée, on y reviendra tout à l'heure, Kepler faisait des essais pour montrer qu'en fait Galilée avait trouvé il avait bien compris que c'était Mars pour le premier anagramme. Il était persuadé que Galilée avait trouvé des satellites à Mars. Et donc il essayait de construire l'anagramme en essayant de montrer que Galilée avait trouvé... Évidemment, ça ne fonctionnait pas. Donc en fait, c'était simplement pour décrire les anneaux de Saturne, lui disait une planète composée de trois parties. Et le deuxième anagramme, en vain j'ai cueilli ses fruits verts, et puis il y avait deux voyelles qu'il n'arrivait pas à placer, O et Y, qui voulait dire la mère des amours imite les phases de la Lune. Donc là, on a un modèle de communication scientifique qui est particulier et qui, on va dire, va participer de cette réception très particulière des observations de Galilée. Pourquoi particulière ? Parce que Galilée savait qu'il allait recevoir un certain nombre de critiques. Évidemment, il n'était pas sans crainte quant à la réception de ses travaux. Certains ont été parfaitement reçus, certains l'ont parfaitement reçu, d'autres moins. Alors, Ici, par exemple, on a la réception de la lunette et de l'usage d'un usage très spécifique de la lunette par un noble de Rome. On était au sommet de Janicule, près des portes de la cité, où, dit-on, s'était dressée un jour la maison du poète Martial et qui est maintenant la propriété du très révérend Malavasia. Avec cet instrument, donc la lunette, nous vîmes le palais du très illustre duc Altan sur les collines de Toscane, si distinctement que nous avons aisément pu compter chacune de ses fenêtres, même la plus petite. Et la distance est de 16 000 Italiens. Du même endroit, nous avons lu les inscriptions sur la galerie que Sixtus a construite dans le Latran pour les bénédictions, si clairement que nous distinguons même les points de ponctuation creusés entre les lettres à une distance d'au moins 2 000. Cette réception positive-là de la lunette, elle est positive dans le sens où il s'agit d'un instrument à usage terrestre. Ça n'a jamais posé problème. Ça n'a jamais suscité de controverses, suscité de discussions, parce qu'il y a un usage militaire qu'on soit bien, il y a une capacité à repérer l'ennemi qui est tout de suite et immédiatement utilisable et qui donc ne pose pas de problème. Simplement, les objections vont venir de la part de ceux qui utilisent la lunette pour la tourner vers le ciel. Et là, elles sont plus nombreuses et plus importantes. La plus virulente est probablement celle d'un aristotélicien qui s'appelle Cesare Cremonini. Alors, Cremonini est un opposant obstiné. Il a persisté dans une dénégation des observations de Galilée telle qu'il refusait de débattre avec lui. Mais on a quand même une idée de son positionnement à travers cette lettre. De Paolo Gualdo, qui a la chance, ou la malchance, d'être l'ami à la fois de Galilée et de Cesare Cremonini. Et que nous dit Paolo Gualdo ? Il nous dit « Je suis donc allé dernièrement chez M. Cremonini et venant à parler de votre seigneurie, de Galilée donc, je lui dis en manière de plaisanterie « Monsieur Galilée attend avec impatience que paraisse l'ouvrage de votre seigneurie, donc là de Cremonini, puisqu'il était dit que Cremonini devait écrire un ouvrage contre Galilée. Il me répondit « Il n'a pas lieu de s'impatienter » car je ne fais aucune allusion à ses récentes observations. Je crois qu'il est le seul à avoir vu quelque chose. Et d'ailleurs, ses observations à travers les lunettes me font tourner la tête. Il suffit, je ne veux plus en entendre parler. » Donc là, on voit fermer le banc, pas de discussion. Il est hors de question que j'utilise cet instrument pour observer. C'est une objection de principe, on pourrait dire. Il n'y a pas une objection a priori, il n'y a pas nécessité d'en discuter. Autre opposant, Antonio Maggini. Lui enseigne à l'université de Bologne et Galilée lui va essayer d'aller le convaincre directement. Galilée se rend à Bologne et on a le récit via Martin Orci de Lodchovic, qui est un proche de Kepler et un proche de Galilée, de cette rencontre entre Maggini et Galilée. Galileo Galilei, mathématicien de Padoue, vint nous voir à Bologne. Il apporta cette lunette à travers laquelle il a vu quatre planètes imaginaires. Donc déjà, ne serait-ce que le simple fait de dire quatre planètes imaginaires situe déjà son positionnement. Quant à moi, le 24 et 25 avril, je n'ai dormi ni le jour ni la nuit, mais j'ai essayé l'instrument de Galilée mille fois et de mille façons, aussi bien pour considérer les objets terrestres que ceux célestes. Pour les objets terrestres, la lunette fait merveille. On retombe donc sur ce que je disais tout à l'heure et sur le témoignage dont on a que j'ai cité de Giulia Caesar, qui consiste à dire, du point de vue des observations terrestres, pas de problème. Pour les objets célestes, elles se trompent, car certaines étoiles fixes y apparaissent doubles. Je peux produire les témoignages d'hommes très distingués et de savants les plus connus. Tous ont avoué que l'instrument de Galilée donne une vision fausse. Mais Galilée garda le silence, et le 26, il prit tristement congé de l'illustrissime docteur Maggino. Il y a un point extrêmement important ici, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Lodchovic dit « Je peux produire les témoignages d'hommes très distingués et de savants les plus connus. » Au début de l'époque moderne, l'administration de la preuve, le fait de faire preuve, se fait et se produit par les témoignages concourants et concomitants alors lui dit d'hommes très distingués et de savants les plus connus, de témoins attestant d'une d'une valeur sociale et morale reconnue. Et donc, on le verra tout à l'heure avec une lettre de Kepler, c'est un point extrêmement important. À partir du moment où vous avez cet instrument et que les opinions relativement aux observations qu'on peut faire avec lui sont incommensurables, la question du témoignage et de l'attestation de la preuve de l'observation devient cruciale et essentielle. Et c'est bien ce qu'on demandera à Galilée, et c'est bien ce qui lui coûte ici la capacité à remporter la conviction non seulement de Lotchovic, mais aussi de Maggini. Donc on voit bien que le système d'administration de la preuve, ici, repose en grande partie et même entièrement sur la capacité à attester et à faire attester par des témoins de valeur les observations que Galilée prétend avoir faites. Autre personnage extrêmement important, Clavius. Clavius est professeur de mathématiques au Collège romain. C'est une sommité et une autorité reconnue à cette époque-là dans le domaine des mathématiques et de l'astronomie. Et on a une lettre d'un proche de Galilée. Clavius le premier dit à un de mes amis au sujet de quatre étoiles qu'il y avait là de quoi rire et qu'il faudrait d'abord faire une lunette qui les fabriqua, puis les montra ensuite, et que si Galilée avait son opinion, il garderait quant à lui la sienne. Il s'agit de fabriquer les lunettes, sous-entendu que la lunette montre des choses qui n'existent pas. On a là des objections sérieuses. Alors, je précise tout de suite que Clavius va revenir sur son opinion, et Maggini aussi. Pas Cremonini, on s'en doute un peu quand on voit son premier témoignage. Voici ce qu'on peut lire dans les opéras mathématiques, enfin les œuvres complètes de Clavius. On peut avoir, grâce à cet instrument, la lunette, beaucoup plus d'étoiles qu'à l'œil nu. Donc Clavius et aussi Maggini sont revenus sur leurs opinions et ont finalement donné quitus à Galilée de ses observations. On voit là que Galilée est en terrain hostile sur le strict point de vue de la capacité de l'instrument à permettre les observations qu'il prétend avoir faites. C'est extrêmement important. On n'en est pas encore à un débat qui porterait sur des objections copernicien-anticopernicien. Simplement, du point de vue d'une histoire des techniques, on est là dans quelque chose d'extrêmement important, c'est que l'objet ne fait pas consensus. L'objet n'est pas reconnu comme ayant cette capacité à produire les observations que Galilée prétend qu'elle fait. Et donc, que va faire Galilée ? Il va essayer, en quelque sorte, de s'attaquer à la racine. La racine de cette non-croyance, de cette non-capacité à considérer la lunette comme un instrument fiable, vient du fait, non pas qu'on considère a priori la lunette comme un instrument, même si elles étaient d'assez mauvaise qualité et que probablement il était parfois difficile de voir sans un entraînement et sans une observation répétée, ce que Galilée, lui, avait pu voir, mais je vous ai dit au début qu'il avait systématisé l'observation avec la lunette et c'était ça qui était le plus important pour lui, c'est-à-dire qu'il en avait un usage, il avait une sorte d'ergonomie et de facilité d'utilisation qui en faisait qu'il s'était approprié l'instrument et que l'observer comme ça une fois, comme le fait Martin de Lotchovic ou Maggini, ne suffit pas pour s'approprier l'instrument. Mais au-delà de ça même, il y a une opposition, on va dire quasi philosophique, qui est que au début de l'époque moderne, on a globalement une croyance dans l'infaillibilité des sens humains. Et ce sont eux qui sont infaillibles. C'est pas tellement que la lunette serait un support disqualifié a priori, c'est surtout qu'elle ne peut pas apporter de surplus aux observations humaines, puisque l'homme, créature divine, a sinon des sens aux capacités maximales, au moins extrêmement éprouvées. Et donc, par conséquent, que peut lui apporter la lunette, puisque les sens humains sont censés être, sinon parfaits, du moins extrêmement performants. Et donc, Galilée va s'attaquer à cette objection avec cet argument-là. En outre, qui voudra affirmer que la lumière des planètes Médicées n'arrive pas jusqu'à la Terre ? Prétendons-nous encore faire de nos yeux la mesure de l'expansion de toutes les lumières ? La phrase est extrêmement importante. Si bien que là où les images des objets lumineux ne nous sont pas perceptibles, nous devions affirmer que leur rayonnement n'arrive pas. Il se peut que l'aigle et les loups cerviers, ce sont les lynx, voient des étoiles qui, à notre faible vue, demeurent cachées. Donc voilà, il y a une relativisation de la perception visuelle humaine dans l'ordre animal, qui permet effectivement de faire référence à une expérience du sens commun qui est de voir un aigle fondre sur sa proie depuis une hauteur extrêmement élevée, et donc de dire, nous, humains, nous n'avons pas vu cette proie-là, nous ne sommes pas capables de la voir, donc nous ne pouvons pas faire de nos yeux la mesure ultime, l'opérateur ultime du sens visuel, qui nous permettrait de dire, eh bien non, la lunette ne nous aide pas. Donc on voit quel est le raisonnement de Galilée, et c'était une sorte de première objection, on n'en est pas encore à une étape qui concernerait Copernic. Une fois admis qu'il pouvait exister donc une perception visuelle plus aiguë que celle de l'homme, maintenant il faut faire admettre que la lunette ne déforme pas la vue, mais bien qu'elle permet d'augmenter les capacités de perception. Alors, comment a été fait, on va s'interroger là un petit peu sur le processus qui a permis globalement le passage à une acceptation assez générale et assez consensuelle au sein de cette proto-communauté scientifique du XVIe siècle, de la lunette. En fait, ce sont les deux personnes les plus reconnues, c'est Kepler et Clavius. Kepler, bon, vous connaissez, c'est avec les fameuses lois de Kepler, celui qui a repris les observations de Tycho Brahe, il en a été probablement l'un des derniers élèves, et il s'en est servi pour finalement montrer que les planètes ne tournaient pas sur des orbites circulaires, mais bien sur des orbites elliptiques, ce qui change beaucoup de choses. Et donc, il est reconnu comme une autorité dans le domaine de l'astronomie. Et il est dubitatif. Quand il écrit à Galilée au mois d'août 1610, « Je ne veux pas vous cacher qu'un bon nombre d'Italiens ont envoyé des lettres à Prague affirmant qu'ils n'avaient pas vu ces étoiles. » Donc là, il parle en fait des satellites de Jupiter, « avec votre lunette. » Or, si j'observe ce qui m'arrive parfois, je ne considère pas du tout comme impossible qu'une seule personne puisse voir ce que des milliers n'ont pu voir. Alors là, c'est un détail important physiologique, mais Kepler est atteint de diplopie. La diplopie fait voir un point lumineux diffracté en une dizaine de points lumineux. Donc il sait, lui, que ce qu'il voit comme étant 10 points lumineux n'est en fait pour les autres qu'un seul point lumineux. Par conséquent, cette phrase-là n'est pas anodine. Il dit « moi, j'ai une vue défaillante, je sais très bien que ma perception personnelle peut être altérée, est-ce que celle de Galilée peut très bien l'être aussi ?» Et on retombe sur l'argument qu'on avait tout à l'heure avec Lotchovic. Je regrette que la confirmation par les autres prenne du temps à se montrer, alors je vous en conjure, Galilée, donnez-moi des témoins dès que possible. Ce qu'il faut maintenant, c'est réussir à attester des observations, c'est réussir à trouver des témoins. En fait, Kepler va être assez convaincu, en fait, il va se convaincre lui-même tout simplement en se procurant un modèle de lunettes. On est dans une période où la construction et la fabrication des lunettes à la fois prend du temps, parce que c'est un outil quasi prototype, et on invente au fur et à mesure qu'on les crée la capacité, on va dire, la capacité technique à fabriquer un bon instrument, à avoir des lentilles qui soient performantes, qui soient bien taillées, qui soient correctes, qui soient faites dans un verre correct, etc. Donc on invente au moment même où on fait ces observations l'instrument qui va permettre de faire ces observations. Donc on est dans cette espèce de course technique qui va permettre l'amélioration de la lunette. Et donc Kepler se procure une très bonne lunette, et finalement il arrive à observer les satellites de Jupiter. Quel meilleur témoin que Kepler lui-même ? Il finit finalement par admettre que Galilée avait bien vu les satellites autour de Jupiter, et il écrit un petit livre qui s'appelle « Récit des observations que j'ai faites concernant quatre satellites se mouvant autour de Jupiter ». Alors, vous l'avez en latin ici, un tout petit texte dans lequel il dit « Ami lecteur, c'est pour toi que j'ai décidé de rendre publiques ces quelques observations hâtives, afin que, soit sur la foi de mes déclarations et des témoignages que j'apporte, encore l'importance des témoignages et de l'attestation, tu en viennes à renoncer complètement au doute et à reconnaître la vérité qui s'offre ouvertement à toi, soit que tu fasses des observations toi-même avec un bon instrument qui te permette de voir par toi-même la réalité des choses. » Donc il y a la délégation de l'attestation de la preuve aux témoins potentiels eux-mêmes. Pour le collège romain, qui est autour de Clavius l'autorité la plus importante, Galilée va faire un certain nombre de démonstrations. Vous avez vu tout à l'heure que Clavius s'est montré finalement convaincu. Et donc, Galilée va finir par rencontrer un des personnages les plus importants du collège romain, qui s'appelle Federico Cecchi. Qui est un personnage extrêmement important parce qu'il est le fondateur d'une académie, alors qui va être le modèle de communauté scientifique émergent et dominant à partir du XVIIe siècle, mais qui en est là à ses balbutiements. Il va le nommer membre de l'Académie des Lincei, des Lynx. Et c'est en quelque sorte la reconnaissance par le Collège romain, une reconnaissance de fait de la qualité des observations et de la validité des observations de Galilée. Je vais assez vite, l'heure tourne. il nous faut maintenant nous intéresser au procès. Nous avons là vu les découvertes de Galilée, les conditions dans lesquelles il les a faites, les oppositions auxquelles il a dû faire face, et en quelque sorte, ce qui sous-tendait ses observations et la démonstration qu'il en a faite, c'est-à-dire une défense illustration du copernicianisme, puisqu'il faut bien l'appeler comme ça, qui tendait à relativiser, voire à dissoudre cette frontière artificielle entre monde supra et monde sublunaire, et qui tendait à montrer qu'il existait en fait que les observations étaient convergentes avec le système théorique d'un monde héliocentrique avec le Soleil au centre et les planètes tournant autour. Que la Terre n'était pas la seule à avoir un satellite naturel, mais que Jupiter disposait de 4 satellites naturels, etc. etc. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis un petit peu maintenant, à la fin, au XVIIe siècle, l'Église n'a toujours pas en fait adopté une position tranchée quant à la question de l'héliocentrisme, pour la bonne et simple raison qu'elle avait cette position qui a permis à Copernic de ne pas être inquiété. Enfin, il est mort très peu de temps après la publication de De Revolutionibus, mais au moins à son livre de ne pas être inquiété, puisque pour l'instant, et jusqu'au procès, jusqu'à la première interdiction de Galilée, le De Revolutionibus n'est pas mis à l'index par l'Inquisition. L'Église maintient une distinction entre réalité et construction mathématique, et ça c'est extrêmement important, la philosophie naturelle devant permettre d'expliquer la réalité et les mathématiques devant pouvoir rendre compte de modèles théoriques et pouvant se contenter des faits observés, les faits observés pouvant être distincts de la réalité. On est là dans quelque chose qui est relativement labile et relativement subtil, mais c'est extrêmement important, cette hiérarchie entre philosophie naturelle, qu'on appellerait nous la physique, la philosophie naturelle d'une part et les mathématiques d'autre part, parce que je vous l'ai dit, lorsqu'il arrive en 1610 à Florence, Galilée demande expressément à Cosme II de Médicis, qui va être enfin, dont il est le courtisan, d'être inscrit comme professeur de philosophie et de mathématiques. Donc à partir de ce moment-là, tous les textes de Galilée ne pourront plus être lus simplement comme s'il s'agissait de modèles mathématiques, mais bien comme s'ils devaient rendre compte de la réalité et non pas simplement une représentation de la réalité. Il ne peut plus se cacher derrière un hypothétique statut de mathématicien qui lui permettrait de dire « Ah, mais je n'ai pas décrit la réalité, j'ai simplement décrit un modèle qui permet de rendre compte des faits observés. » Donc c'est extrêmement important. Pourquoi l'Église tient-elle à ce point au système aristotélicien? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était conforme à l'Église, oui, mais pourquoi? Quand on regarde dans la Bible, il y a un certain nombre de passages, je n'en ai pris qu'un, mais il y en a plusieurs, et notamment dans le livre de Josué, où il est explicitement fait mention du mouvement des corps célestes qui montre que l'attachement au système aristotélicien est quasi obligatoire. Dans le livre de Josué, « Alors Josué parla au soleil en ce jour où le Seigneur avait livré les Amorites aux fils d'Israël et dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, la vallée de Gabaon, lune sur la vallée d'Ayalon, et le soleil s'arrêta et la lune s'immobilisa jusqu'à ce que la nation fût vengée de ses ennemis. Le soleil s'immobilisa au milieu des cieux et ne se hâta pas de se coucher pendant près d'un jour entier. » Voilà, le soleil et la lune s'immobilisent. S'ils s'immobilisent, c'est qu'ils sont en mouvement. À partir du moment où le soleil est en mouvement, il est donc impossible de dire que le soleil est au centre de l'univers et ne bouge pas. Ce texte-là et d'autres, mais ça n'est pas le seul, constituent à figer l'interprétation des Écritures dans un sens purement géocentrique. Seul le système géocentrique permet de rendre compte du fait que l'arrêt demandé du soleil et de la lune par Josué est effectif. Vous ne pouvez pas, dans un système héliocentrique, faire arrêter le soleil, puisqu'il est au centre et qu'a priori, il ne bouge pas. Alors, quelle va être la défense de Galilée, le présupposé qu'il a? En fait, Galilée va avoir cette défense-là. Galilée dit « Dieu parle aux hommes à travers deux livres. D'une part, les Saintes Écritures, et d'autre part, le livre ouvert de la nature. Dans les Saintes Écritures, comme elles sont destinées à être lues par les hommes, elles sont nécessairement adaptées, elles sont nécessairement conformées à l'intelligence et aux capacités de l'homme. Elles peuvent donc donner lieu à des interprétations erronées. En revanche, si Dieu nous parle à travers le livre de la nature, là, il nous parle vraiment. Et donc, s'il y a contradiction entre les Écritures et le livre de la nature, c'est le livre de la nature qu'il faut croire. Parce que c'est lui qui donne la parole divine de manière la plus exacte. Alors on voit là que c'est une interprétation qui ne convainc pas les docteurs de l'Église, vous vous en doutez bien. Et ça augmente et ça amplifie la polémique. Mais ce n'est qu'en mars 1615, alors vous savez comment c'est saisi l'Inquisition, il faut que le Saint-Office reçoive directement une dénonciation. Il ne s'auto-saisit pas lui-même, en tout cas pas à cette époque-là. Et donc le Saint-Office, qui est le bureau exécutif, on pourrait dire, de l'Inquisition, reçoit une dénonciation et on ouvre un dossier sur les agissements de Galilée. Le 3 mars 1616, l'ouvrage de Copernic, le De Revolutionibus, est mis à l'index. Galilée n'est pas mentionné directement, mais il est quand même directement impliqué dans l'affaire. Le pape, qui s'appelle Paul V, le convoque à Rome et lui demande officiellement de ne plus professer la théorie de Copernic. Et Galilée, pendant 7 ans, va se soumettre à cette interdiction. Pardon. Pourquoi pendant 7 ans seulement? Parce qu'en 1623, un nouveau pape est élu. C'était le cardinal Barberini. Et il devient donc le pape Urbain VIII. Et c'est un soutien de Galilée de longue date. Alors, il est parfois présenté précisément dans un certain nombre d'ouvrages comme un ami de Galilée. Je vous ai dit au début que ce qui était important de retenir, c'était qu'on était dans un système curial. Quand on est dans un système curial, on n'est pas l'ami d'un cardinal. On est éventuellement son client. On est dans un système de hiérarchie et de dépendance. Mais il est hors de question d'avoir une relation d'égalité, d'amitié qui aurait une valeur d'égalité. Donc il faut bien le voir qu'on est dans une relation de dépendance et que si le cardinal Barberini est un soutien de Galilée, c'est aussi parce qu'il s'intéresse aux sciences, c'est aussi parce que c'est dans son intérêt de soutenir Galilée, proche de Cosme II de Médicis, etc. Alors, que fait le cardinal élu pape, Urbain VIII? Il va autoriser Galilée à publier des travaux qui concernent la théorie de Copernic, mais en y mettant deux limites. La première, c'est qu'il doit faire une présentation des deux systèmes en étant le plus équilibré et le plus impartial possible. Et la deuxième limite, c'est que le livre devra être publié à Rome. Elle peut paraître incongrue, cette demande. En réalité, elle est extrêmement intentionnée. Si Galilée publie ailleurs, le temps que l'Inquisition fasse son travail, que des hommes soient dépêchés pour retirer les livres, effectivement, s'il publie au sud de l'Italie, Galilée aura eu le temps de diffuser ses ouvrages avant même que l'interdiction par l'Inquisition soit tombée. Donc finalement, Galilée va faire paraître son livre. Alors, qu'on appelle Dialogue sur les deux grands systèmes du monde. Le manuscrit a été achevé en 1629 et il est publié en 1632. Alors Galilée lui a donné une forme tout à fait particulière, puisque le livre va présenter 3 interlocuteurs qui vont discuter pendant 4 jours du système aristotélicien et du système copernicien. L'ouvrage est publié en italien et non pas en latin. Donc vous voyez déjà que l'audience, l'arène visée est beaucoup plus large que la seule communauté savante. Galilée sait très bien qu'il est en train d'écrire un ouvrage qui a une charge subversive telle qu'il doit dépasser la seule communauté savante pour essayer de convaincre. Alors, 3 personnages. Simplicio. Alors, Simplicio, c'est le nom d'un commentateur d'Aristote. Et c'est lui qui va défendre la théorie d'Aristote. Il est présenté dans l'ouvrage, effectivement, comme quelqu'un d'assez simple. Il faut bien le dire, d'assez obtus et parfois caricatural. Le deuxième personnage, Sagredo, c'est l'image de l'honnête homme, cultivé, ouvert, prêt à apprendre, prêt à être convaincu. Et le troisième homme, c'est Salviati, qui porte le nom d'un ami de Galilée qui était décédé, et qui lui représente les idées nouvelles. En fait, c'est Galilée qui parle à travers la voix de Salviati. Alors, la forme de l'ouvrage, hein, c'est un dialogue, l'utilisation de l'italien, tout ça déjà augure de quelque chose qui a valeur, on va dire, d'ouvrage polémique. Quand on reprend la structure de l'ouvrage, on a d'abord une partie sur l'organisation générale de l'univers. Galilée va poser comme principe que l'univers est forcément ordonné. Et il s'oppose à l'idée du monde aristotélicien de ce point de vue-là, en disant que, après tout, distinguer sublunaire de supralunaire, ça n'est pas rationnel. Il faut considérer a priori que le monde est unifié. et que toutes les parties obéissent forcément au même principe. On a cette unification et donc cette harmonisation par le respect des mêmes principes. Et Galilée fait dans cette partie de l'ouvrage de longs reproches aux aristotéliciens pour, dans l'idée de croire en un monde sublunaire, parfait, immuable, alors qu'en fait, lui constate que dans la nature, tout est systématiquement changement, renouvellement. Alors, il prend les exemples. Enfin, je vais vous citer un exemple tout à l'heure, mais c'est un ouvrage où il y a beaucoup d'exemples bucoliques. Vous allez le voir. Alors, il prend les exemples des plantes qui se renouvellent chaque année, des arbres, etc. Et il dit tout change dans la nature. Pourquoi donc les cieux ne changeraient pas ? Quelle est l'objection profonde et philosophique qui ferait que cette partie-là de l'univers ne serait pas mue par ce même système unitaire du changement et du renouvellement ? Deuxième partie de l'ouvrage, il s'agit là plus directement de rentrer en fait dans le débat contre les aristotéliciens en défendant la question du mouvement de la Terre. L'un des arguments des aristotéliciens est que si on voit un corps tomber verticalement, quand un corps tombe verticalement, il tombe pas, enfin, on ne le voit pas obliquement. Or, si la Terre était en mouvement, on devrait le voir tomber obliquement. Et en fait, il va prendre un exemple, Galilée, qui est le suivant. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est très bucolique. Enfermez-vous avec un ami dans la plus grande cabine, sous le pont d'un grand navire, et prenez avec vous des mouches, des papillons et d'autres petites bêtes qui volent. Munissez-vous aussi d'un grand récipient rempli d'eau avec des petits poissons. Accrochez aussi, un petit seau dont l'eau coule goutte à goutte dans un autre vase à petite ouverture placée en dessous. Quand le navire est immobile, observez soigneusement comme les petites bêtes qui volent vont à la même vitesse. Dans toutes les directions de la cabine, on voit les poissons nager indifféremment de tous les côtés. Les gouttes qui tombent entrent toutes dans le vase placé dessous. Si vous lancez quelque chose à votre ami, vous n'avez pas besoin de jeter plus fort dans une direction ou dans une autre lorsque les distances sont égales. Quand vous aurez soigneusement observé cela, bien qu'il ne fasse aucun doute que les choses doivent se passer ainsi quand le navire est immobile, faites aller le navire à la vitesse que vous voulez, pourvu que le mouvement soit uniforme, sans balancement dans un sens ou dans un autre, vous ne remarquerez pas le moindre changement dans tous les effets qu'on vient d'indiquer. Aucun ne vous permettra de vous rendre compte si le navire est en marche ou immobile. Effectivement, il s'agit de montrer que le mouvement de la Terre autour du Soleil n'a pas de conséquences pour nous si on est dans un mouvement uniforme. Donc, vous voyez que l'exemple choisi qui a trait au sens commun et cherche une analogie entre des situations concrètes et le mouvement de la Terre a bien volonté de dépasser la proto-communauté scientifique pour aller chercher au-delà un public cultivé, évidemment, qui serait à même de le soutenir. Comme leur avance, je vais aller un peu plus vite. La troisième partie de l'ouvrage porte sur le mouvement de la Terre autour du Soleil. Alors là, Galilée se montre extrêmement copernicien par la voix de Salviati. Et donc, il va défendre impérativement le mouvement copernicien. Et enfin, la quatrième partie porte sur la théorie des marées. Alors, les historiens des sciences ne sont pas tous d'accord pour savoir si cette théorie des marées avait une réelle valeur ou si le fait que Galilée ne voyait les marées que depuis la Méditerranée faisait qu'il en avait une compréhension moindre. Alors, quelle est la réaction de l'Église ? C'est ce qui nous intéresse ici. En fait, le pape va prendre connaissance du contenu de l'ouvrage. Galilée ne lui a pas envoyé. Effectivement, il va prendre des mesures contre ce livre. D'abord parce que ce livre, contrairement à ce Galilée s'était engagé à ce qu'il soit publié à Rome, mais Galilée le fait publier à Florence. Donc il se sent trahi déjà, le pape, et en outre, le livre n'est pas une présentation équilibrée des arguments aristotéliciens et coperniciens. Il est une charge contre les aristotéliciens et une défense pro domo des coperniciens et du système de Copernic. Et puis il y a autre chose qui est au moins aussi important à ce moment-là, qui concourt au procès de Galilée. C'est que le pape est dans une situation extrêmement difficile. En fait, Urbain VIII a apporté son soutien à la politique française. Or, la France, elle, s'est alliée à la Suède protestante pour combattre l'Allemagne, pour combattre les princes allemands. Et donc, on voit là que le pape, en quelque sorte, indirectement, aurait soutenu la réforme, ce qui provoque l'ire des jésuites à Rome et lire effectivement du roi d'Espagne. Quelle est sa marge de manœuvre ? Elle est extrêmement faible. Le pape est diminué en termes de relations géopolitiques. Il est isolé dans les relations qu'il a avec les princes et les rois catholiques d'Europe, il n'a pas d'autre solution que de se recréer une légitimité propre. Quoi de mieux qu'un procès défendant les Écritures contre Galilée pour, en quelque sorte, se redonner ce crédit et cette légitimité-là. Les jésuites l'accusent depuis longtemps d'être laxiste, notamment envers les protestants. Et le pape est un chef religieux. Ça, c'est la chose la plus importante. Il a donc besoin de cette légitimité-là, de cette légitimité géopolitique. Et donc, par conséquent, l'affaire Galilée lui fournit l'occasion de reconstituer cette légitimité politique en montrant qu'il défend les Saintes Écritures, qu'il est le gardien, effectivement, de la foi chrétienne et qu'à partir de ce moment-là, il ne laissera rien passer, y compris les écrits de Galilée. Cela dit, c'est un geste politique habile, mais Urbain VIII ne va pas pour autant abandonner totalement Galilée, qui est son ancien protégé. Il va faire en sorte que la condamnation ne soit pas trop lourde. D'abord, en tant qu'accusé, Galilée a eu droit à des égards. Il n'a pas été jeté en prison, mais il a été mis en résidence. Et ensuite, la commission qui doit le juger ne comprend qu'un seul jésuite. Or, les jésuites sont les plus vindicatifs contre Galilée, effectivement, et c'est eux qui accusent le plus le pape d'être laxiste. Et en outre, c'est le neveu d'Urbain VIII qui préside cette commission-là. En quelque sorte, il est le bras armé d'Urbain VIII sur cette commission chargée de juger Galilée. Et quel est le chef d'accusation ? Si Galilée était convaincu d'avoir défendu une opinion contraire à l'Église, il aurait été accusé et tout de suite condamné pour effectivement être un hérétique. Et la condamnation de l'hérésie est immédiate. Giordano Bruno en avait fait les frais. C'est la mort. Donc, par conséquent, le tribunal ne va pas juger Galilée hérétique. Elle va le juger comme étant coupable de ne pas avoir respecté sa parole. Si vous vous souvenez, quand on met le De Revolutionibus à l'index et quand on lui interdit dans le même temps de l'enseigner, il a continué à professer le De Revolutionibus et les thèses coperniciennes. À partir de ce moment-là, il est coupable de ne pas avoir tenu sa parole, ce qui est une accusation moins grave, et donc ne le condamne pas à mort. Et je voudrais terminer par la sentence de Galilée. Moi, Galileo Galilei, fils de feu Vincenzo Galilei de Florence, âgé de 70 ans, comparaissant en personne devant ce tribunal, je jure que j'ai toujours cru, que je crois à présent et que, avec la grâce de Dieu, je continuerai à l'avenir de croire tout ce que la Sainte Église catholique, apostolique et romaine tient pour vrai, prêche et enseigne. Mais, parce que, après que le Saint-Office m'eut notifié l'ordre de ne plus croire à l'opinion fausse que le soleil est le centre du monde et qu'elle se meut et de ne pas maintenir, défendre ni enseigner soit oralement soit par écrit cette fausse doctrine, après avoir notifié que ladite doctrine était contraire à la Sainte Écriture, parce que j'ai écrit et fait imprimer un livre dans lequel j'expose cette doctrine condamnée, en présentant en sa faveur une argumentation très convaincante, alors c'est là où on se demande si ce n'est pas un jésuite effectivement qui a écrit ça, en présentant en sa faveur une argumentation très convaincante sans apporter aucune solution définitive, donc là on se prémunit contre tout, j'ai été de ce fait soupçonné véhémentement d'hérésie, c'est-à-dire d'avoir maintenu et cru que la terre n'était pas au centre et se meut. Pour ceux voulant effacer dans l'esprit de vos éminences et de tout chrétien fidèle ce soupçon véhément, à juste titre conçu contre moi quand même, j'abjure et je maudis d'un cœur sincère avec une foi non simulée les erreurs et les hérésies susdites et en général toute autre erreur, hérésie et autre entreprise contraire à la Sainte Église. Je jure à l'avenir de ne plus rien dire affirmé de voix et par écrit qui permettent d'avoir de moi semblable soupçon. Et s'il devait m'arriver de rencontrer un hérétique ou présumé tel, je le dénoncerai à ce Saint-Office, à l'inquisiteur ou à l'ordinaire de mon lieu de résidence. Cette dernière phrase a son importance parce que Galilée est condamné à la résidence à vie. La sentence s'est tombée le 22 juin 1633. Son ouvrage est interdit. Galilée donc abjure et il est assigné à résidence dans sa maison de campagne à Florence. Voilà, j'ai terminé. Merci.
On a un quart d'heure pour les questions. Merci Jérôme Lamy de nous avoir montré en une heure comment fonctionnait, si je puis dire, la pensée galiléenne. Et aussi un savant du début du XVIIe siècle, avec tout ce que ça suppose de prégnance philosophique, théologique, etc. Donc, je te remercie infiniment. Cette dernière phrase est terrible. Hein, elle est vraiment presque émouvante. Hein. Donc Galilée n'est pas prêt à avoir entendu le Galilée auquel on pensait. Enfin, on savait de toute façon qu'il y avait ce fameux procès, etc., et toutes ces théories autour de lui. Je pense que dans les livres, dans les ouvrages scolaires, on parle de Galilée. Enfin, c'est un des rares savants dont on parle avec Pasteur, parce qu'on ne parle pas beaucoup de savants dans les livres scolaires, ou peut-être que les temps ont changé, à moins justement d'en parler comme étant des personnages emblématiques d'une époque. Bon, Galilée est emblématique, mais tu as bien montré aussi qu'il n'était pas tout seul, et tu nous as montré aussi comment fonctionnaient les passages justement de réseau à l'époque, et aussi comment fonctionnait la science, le langage vernaculaire, etc. Et surtout les supports, les références au texte, je trouve vraiment très important pour nos amis ici présents, tous les extraits que tu as montré, et puis les œuvres aussi dont tu vas nous parler, qu'il faut lire. Bon, certainement le livre aussi de cet auteur allemand dont je viens absolument d'oublier le nom, mais que tout le monde connaît.
Panofsky ?
Non, c'est qui a écrit sur le postulat procès de Galilée, bien entendu, qui est très connu. Donc je vais le retrouver tout de suite. Vous-même, vous le savez, on le retrouvera. Donc merci beaucoup. À toi. Et puis je vais laisser la parole à la salle et aux différentes questions. La première est toujours la plus difficile, comme on dit dans toutes les salles de réunion, mais nous sommes entre nous, vous avez remarqué quand même. Non, je vais retrouver. Allez-y, monsieur, s'enregistrer.
Non, j'ai une simple question, une question de Béotien. Vous faites référence en disant l'Église avait deux livres, en gros la Bible, et puis le livre de l'histoire naturelle. Je ne connais pas, je n'ai pas bien compris.
C'est pas ça. C'est le raisonnement de Galilée, ce n'est pas le raisonnement de l'Église. Oui. Galilée dit, en fait, Dieu parle aux hommes à travers deux livres,
oui.
la Bible, oui. et le livre de la nature, c'est-à-dire la nature en fait.
Ah, d'accord.
La nature considérée comme
un livre. Parce que je me disais, je ne connais pas le livre de la nature.
Donc la nature elle-même considérée comme un livre dans lequel on peut lire le message de Dieu.
D'accord.
J'ai été trop vite dans ma... Vous avez raison de le souligner, j'étais trop vite dans ma présentation. Et donc en fait, ils considèrent la nature comme un deuxième livre devant présenter le message de Dieu directement accessible aux hommes. Et quand il y a contradiction entre les deux, c'est le livre de la nature, donc la nature elle-même, qu'on doit admettre comme étant le message de Dieu.
Ouais, mais c'est l'interprétation.
C'est l'interprétation de Galilée, c'est certainement pas l'interprétation de l'Église.
D'accord.
Les Saintes Écritures constituant pour l'Église le seul livre acceptable. D'accord. Et entendu.
Non, je l'ai retrouvé, c'est l'ouvrage de Bertolt Brecht. Il faut le temps, excusez-moi. D'autres questions ?
Oui, on repère souvent, on cite souvent Galilée comme étant un des acteurs, voire un des pionniers de ce qu'on appellera après la révolution scientifique du XVIIe siècle. Et puisque bon, vous l'avez bien montré, on dit Galilée observe des faits, alors que Copernic, lui, il décrit des apparences. Il y a un formalisme mathématique, géométrique, qui est très esthétique d'ailleurs chez Copernic pour ça. Alors je me demandais, donc ça c'est une lecture a posteriori, mais je me demandais si les acteurs du procès, s'il y a des traces dans les différents écrits, relatifs non pas à l'opposition de deux cosmologies ou de deux conceptions du monde, mais plutôt, alors est-ce que en même temps ils avaient conscience que c'était un procès d'une démarche scientifique qui mettait l'observation au centre. Est-ce qu'on a fait le procès de l'observation finalement ?
C'est pas le procès de la science. Le procès de Galilée n'est pas le procès de la science. Enfin, pour les interprétations les plus admises aujourd'hui parmi les historiens des sciences montrent que c'est pas le procès de la science qui est fait. C'est spécifiquement le procès de Galilée et de son comportement en tant que chrétien, ne s'étant pas soumis à un verdict qui avait été édicté quelques années auparavant. Très clairement, ça n'est pas le procès de la science. D'abord parce que le nombre nombre de prélats, nombre de prêtres pratiquent la science. Je n'ai besoin que de citer que les jésuites qui ont irrigué, en ce qui concerne l'astronomie, toute l'Europe, de leurs lettres, de leurs ouvrages, etc. Et donc, il n'y a pas d'opposition formelle entre... En fait, oui, ce que vous me permettez de souligner ça, c'est que le propos un peu de mon intervention, c'était de dire que dire qu'il y avait une opposition entre l'Église et la science, c'est une caricature. C'est une grosse caricature parce que ça n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui... On est dans un système social qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement cadré, qui consiste à dire qu'il y a des discours qui sont entendables, d'autres qui ne le sont pas. Et celui de Galilée, c'est pas tellement, il est non seulement pas entendable, mais surtout, il ne respecte pas les conditions d'énonciation du discours. Donc à partir de là, c'est ce procès-là qui est fait. Et c'est vrai, vous avez raison, qu'on ne peut pas le réduire à un procès... Enfin, ça, ça serait vraiment une erreur. Ce n'est pas la science contre la religion. Ça n'a pas de sens. En ce sens aussi que Galilée, dans toutes ses, se considère comme un chrétien. Il faut bien voir que là, on n'est pas dans un système où ce serait un athée savant, rationaliste, positiviste qui penserait la science, etc. Galilée se considère comme un chrétien, mais il, lui, veut vivre, considère qu'il y a harmonie. D'ailleurs, la preuve avec cette histoire de livre de la nature qui prétend être le livre dans lequel Dieu parle directement, il y a conciliation entre sa pratique et une, il est dans une vision dynamique de sa pratique, en tant que chrétien. Quoi. Il n'y a pas d'opposition formelle. Oui.
Oui, merci. Moi, je voudrais revenir sur l'utilisation de la lunette à l'époque. Donc, à un moment donné, les adversaires de Galilée donc, remettent en cause les observations faites par la lunette et donc l'utilisation même de l'outil. Et dans leur dans ce qu'ils écrivent, à un moment donné, il y avait marqué ils voient des objets célestes doubles.
Oui.
Que voyaient-ils en fait?
Alors bon, là, en ce qui concerne précisément cette observation, on ne peut pas le savoir, parce qu'il n'est pas plus précis que ça. Ce qui est important, c'est que je ne l'ai pas mentionné parce que je devais faire court, mais Galilée est le premier à dire quand vous regardez telle constellation, vous voyez plus d'étoiles avec la lunette que vous n'en voyez à l'œil nu. Certaines étoiles qui vous paraissent toutes seules sont en fait accompagnées de deux, voire trois autres étoiles. Peut-être s'agit-il de ça. Peut-être s'agit-il aussi d'un défaut de la lunette. Ce n'est pas quelque chose qui est rare. On a un nombre de lettres qui constatent qu'on a une mauvaise résolution des lunettes. On a une incapacité à... Les lunettes vous font voir le double parce qu'elles sont mal conçues, parce que le verre n'est pas bon, etc. Donc il y a probablement plusieurs explications possibles à ça. En tout cas, on est dans un instrument... On a un instrument qui est en pleine construction en tant qu'instrument, en même temps qu'il permet de faire des découvertes. D'où cette difficulté à distinguer et à retracer. On ne peut pas tracer comme ça une généalogie instrumentale qui serait pure, parfaite, etc. Elle est forcément liée aux observations qu'on est en train de faire. Elle est forcément impliquée par les usages qu'on en a, les démonstrations auxquelles on veut tendre avec cet instrument-là. Et il n'est pas un instrument comme ça, pur, qui serait sorti des limbes et qui permettrait de faire des observations. Donc du coup, effectivement, il est entaché d'observations doubles qu'on ne peut pas expliquer, de malversations, d'erreurs, etc. Quoi. Effectivement, toutes les lettres qu'on peut voir, les premières lettres qu'on envoie à Galilée, c'est « je vois des étoiles doubles »,« là, je ne vois rien, alors qu'à l'œil nu, je vois quelque chose ». Effectivement, le pouvoir de résolution étant tel, c'était compliqué de s'approprier l'instrument. Et donc, il y a toute une part d'invention sociotechnique qui va avec la capacité à tenir un discours scientifique avec ces observations-là.
À propos de l'invention socio-technique, tu peux parler aussi peut-être du microscope et des révolutions que ça a provoqué, parce qu'on est, je ne sais pas si j'ai les dates en tête, mais on est à l'époque aussi de la découverte de von Leeuwenhoek, donc je me rappelle, je me souviens très très mal du nom, et on passe aussi dans un autre champ, ça veut dire l'infiniment petit, donc l'infiniment petit sur Terre et l'infiniment petit dans le ciel.
Alors là, je laisserai la parole aux spécialistes, parce que je ne suis pas du tout spécialiste. Souvent, on me fait la remarque, je fais plusieurs fois ce cours, et on me pose la question.
Quand j'ai regardé l'histoire du microscope,
j'ai l'impression que c'est aussi une vision contemporaine qu'on a, a priori, de se dire on va mettre en lien la lunette et le microscope, et qu'on connecte. Mais ça, c'est mon impression personnelle, je ne suis pas historien de la chose, mais je pense qu'il faut peut-être peut-être se défier de cette coïncidence. Effectivement, c'est une époque où on a plusieurs instruments qui sont inventés. En termes d'astronomie, par exemple, pour prendre un autre exemple, c'est une époque où on a déjà commencé à se dessaisir de l'astrolabe, par exemple. C'est une époque où on va commencer à inventer ce qui deviendra le sextant, indépendamment de la Lune, enfin dans le sens où on fait feu de tout bois en ce qui concerne les instruments. Donc du coup, je verrais plus une ligne de front instrumentale générale. Je pense à la pompe à air de Boyle, je pense à tout un tas d'instruments qui, à ce moment-là, se font jour et qui, du coup, ont pour objectif de médiatiser la nature, en quelque sorte, et de médiatiser les signaux divers qu'on peut en tirer à chaque fois dans l'observation. Et donc, assez globalement, on a un enchaînement, en quelque sorte, entre la nature, les instruments et ceux qui sont capables d'interpréter ces différents signaux et des questionnements qui vont avec tout ça. Donc du coup, je replacerai l'histoire du microscope dans ce mouvement général-là.
Voilà. Donc c'est ce que je voulais te faire dire.
Une une question comme ça. Est-ce que par hasard, ces scientifiques, Galilée, Copernic, avaient une connaissance, en fait, éventuellement, de travaux faits en dehors de l'Europe ? Parce qu'on parle souvent, en fait, de tout ce qui s'est passé en Europe, mais est-ce qu'ils avaient connaissance de ce qui se passait dans le monde arabe ou indien ?
Alors, là, sur Copernic, là, sa connaissance, ben, il est probable, c'est assez admis parmi les historiens spécialistes de Galilée, qu'il ait eu une connaissance, effectivement, des il faut savoir que depuis le Moyen-Âge, on a eu une... Effectivement, toute l'Espagne du Moyen-Âge a permis un mouvement de traduction énorme, mais qui est un mouvement de traduction des textes grecs qu'on avait perdus en Europe. Donc ça, c'est un premier mouvement, mais aussi, petit à petit, de diffusion et d'infusion des textes arabes originaux qui étaient impliqués dans cette traduction grecque, et pas simplement grecque, et qui ont permis de mettre à jour aussi des travaux arabes originaux. Les historiens spécialistes de Copernic considèrent aujourd'hui qu'il est admissible qu'il ait eu connaissance d'un certain nombre de thèses arabes sur cette question-là. En ce qui concerne Galilée, on peut se poser effectivement la question. On a déjà un corpus de textes qui est relativement important au XVIIe siècle. Il a probablement connaissance... je vais prendre un exemple qui va vous dire à quel point la diffusion des savoirs va très vite quand même. Milieu du XVIIIe siècle, donc on est là quand même un siècle et demi après Galilée, un astronome, j'allais dire du fin fond de la Lozère, mais presque, écrit à son correspondant parisien pour lui dire « Je viens de mettre la main sur les transactions de Philadelphie, donc les comptes rendus de la Société des sciences de Philadelphie aux États-Unis. Je m'aperçois qu'ils sont, je vous cite pas, c'est une passem, hein. Je m'aperçois qu'ils sont extrêmement en avance sur nous en ce qui concerne les comètes. Peut-être la science commence-t-elle une transmigration vers l'Occident. Autrement dit, peut-être y a-t-il maintenant un déplacement vers ce qui sera les futurs États-Unis en ce qui concerne la production de travaux sur les comètes. Donc vous voyez, on est en 1743. Donc vous voyez que la question de l'appropriation des savoirs, de leur diffusion, connaît en Europe. Et puis après, alors au XVIIIe siècle, dans les futurs États-Unis, outre-mer, une diffusion rapide. Donc le corpus des textes circule vite, se redécouvre vite, se transmet vite. Donc en ce qui concerne Galilée, on peut penser qu'il avait à sa disposition un corpus suffisamment large, encore plus que celui de Copernic, on peut penser.
Attendez, il faut que je passe le micro.
Plus un constat... Une question par rapport à l'histoire des sciences. Alors pour SVT, je parlerai que pour SVT et collège, et pas en UFM, faut quand même savoir qu'on a une place importante à accorder à l'histoire des sciences et actuellement hein, dans les programmes. Et ça n'est plus le parent pauvre. Et je pense qu'on oui, on ne peut pas en faire l'économie. Et en passant par Spallanzani, Beaumont ou Harvey ou tout même Eratosthène, voilà, je pense que de plus en plus, cette histoire des sciences, elle a sa place et elle a le devoir de prendre sa place. Quoi. Enfin, c'est bien rappelé dans les programmes officiels.
C'est très bien, ça veut dire que nos amis de la communauté, je regarde Michel Cotte parce qu'on est tous les deux partie de la Société française d'histoire des sciences et des techniques, nous œuvrons bien entendu pour que l'histoire des sciences rentre justement dans l'enseignement, ou qu'il y ait des historiens des sciences aussi qui enseignent, parce que qu'il y ait de l'histoire des sciences dans les livres, c'est une chose, après il faut savoir la faire passer. Donc si vous voulez, en ayant trois lignes sur Galilée, ou je ne sais pas combien il y en a, ou quatre lignes sur Eratosthène, c'est pas... Voilà, donc c'était un petit peu, si vous voulez, la provocation que je fais à chaque fois que je commence les séminaires, et Mario est témoin de cette provocation, et Patrick aussi, et tous nos amis, c'est que c'est une lutte, c'est une... Voilà, donc je pense que c'est assez difficile, mais je vous remercie beaucoup de votre intervention. Nécessaire et nous y œuvrons et vous continuez aussi bien entendu à le faire et c'est très très important pour nous. Ce qui m'intéresserait en effet c'est qu'on puisse en discuter peut-être lors d'un autre stage ou qu'on puisse faire un jour l'état des lieux de ce qui se fait dans les ouvrages justement scolaires en histoire des sciences, hein, Donc on l'a déjà fait dans le cadre de l'enseignement avec, avec nos amis Daniel Fock, etc., Hélène Gisper qui sont venus. Et en SVT, je sais que c'est Nicole Hulin qui travaille là-dessus, mais malheureusement, Nicole, elle ne se déplace pas beaucoup. Donc il faudrait qu'on trouve des intervenants, en effet, qui puissent... Il faudrait que ce soit quand même assez jouissif, si vous voulez, que ce soit pas... Il faudrait que ce soit pas seulement quelque chose de linéaire. Donc ce qui est important pour nous aussi, c'est de vous donner, grâce à la compétence des intervenants, une méthodologie en histoire des sciences. Ça veut dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait un texte décrit. D'abord, qui fait les textes? Ça, c'est une autre histoire, hein. Et ensuite, l'histoire des sciences, ce n'est pas quelque chose de simple, ni de simplifié, ni de simplifiable. Vous le voyez bien aujourd'hui, vous voyez bien à quel domaine ça s'adresse. Hein. Donc, nos amis sont là pour en donner la preuve aujourd'hui, mais vraiment, c'est important, puis on y repensera, et je vous remercie de votre contribution. Merci beaucoup, Jérôme Lamy.
Merci à
plus
vous.
Tard.
Merci.
Merci. Donc, j'ai trois petites choses à vous dire. D'abord, je vous ai distribué le programme qui est faux. Voilà, déjà, ça commence bien. Voilà, enfin, qui est faux, il y en a un petit souci, parce que je ne sais pas si vous connaissez Bernard Le Sueur, pour certains d'entre vous. Il est déjà venu ici donner un stage dans le cadre des ateliers des techniques. Il était très, très content d'être parmi nous. Malheureusement, il a un problème de famille très grave. Et là, il y a 48 heures, il a dit qu'il ne pouvait pas venir. Donc, je n'ai pas pu le remplacer, mais il reviendra l'année prochaine. Il avait préparé un peu. En plus, je ne vous dis pas ce que vous avez préparé, parce que là, vous seriez très malheureux. Ensuite, par rapport au stage lui-même, au stage de demain, donc il y a bien sûr l'atelier de Sébastien Soubiran et l'atelier de Patrick Matagne qui sont maintenus. Et le vendredi matin, normalement, il y avait un atelier, mais on vous invite, je vous invite à rester jusqu'à vendredi. De toute façon, si vous partez, vous perdrez beaucoup. Parce qu'il y a une conférence ici à 9h sur la biodiversité donnée par Patrick Matagne. Et l'après-midi, elle est inscrite dans le programme. Vendredi 29 janvier à 14h, on a une conférence d'Étienne Klein. Donc Étienne Klein est un personnage quand même assez famous, comme on dit chez nous. Et je lui ai demandé de donner une conférence sur la place de la science aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un... Il est déjà venu ici dans le cadre des Amphis du Savoir, on a eu des conférences sur les physiciens, etc. C'est vraiment quelqu'un qui pense la science. Donc je pense que par rapport aux questions que vous vous posez et par rapport à votre discipline, Étienne Klein pourra répondre aussi à vos questions. Mais venez, parce que ça sera... Je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Hein. Ça sera vraiment une très grande conférence. Et Étienne Klein, qui est très pris, nous fait l'amitié de venir au moins ici tous les 2 ans. Donc profitez-en. Et avant de partir, avant la pause, je voulais aussi, je ne l'ai pas fait au début, j'étais très mal élevée, remercier tous nos conférenciers qui sont arrivés hier soir, donc M. Savaton, Anne Rasmussen et puis Michel Cotte. Et je voulais, pour l'information, vous dire qu'on a trois conférenciers qui sont venus de Strasbourg quand même, donc applaudissons-les. Et voilà, c'est très, très gentil de leur part, donc toujours de ce laboratoire IRIST dont on parlera. Donc écoutez, toutes les bibliographies sont au fond de la salle, vous avez des ouvrages pour consultation et les revues d'actualité, elles sont pour vous. Donc s'il en manque dans la journée des revues, vous me le dites, on ira en chercher. Donc je vous souhaite une bonne pause et je vous dis à tout à l'heure. Merci.